Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de l'émission Libre Propos, l'émission de Radio Rancière qui vous permet chaque semaine d'entendre la parole de notre évêque, Monseigneur Philippe Christori, sur des sujets de société. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Christophe.
Alors nous allons évoquer pour commencer la semaine missionnaire mondiale qui se déroule du 17 au 24 octobre et qui appelle les catholiques à la prière et au partage pour soutenir la vie et la mission des églises locales du monde qui sont nombreuses et très diverses.
C'est un sujet effectivement important puisque c'est vraiment le commandement que Jésus nous donne, hein, aller de toute nation, faites des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui aime, qui écoute, qui accompagne un maître, en l'occurrence Jésus pour nous, qui est vraiment notre sauveur, celui qui nous montre la route de la vie éternelle. Donc effectivement, la mission s'est déployée en tout temps, avec le cœur, avec l'amour, hein, qui comme vecteur de ce message. Et chaque année, il y a une semaine, comme c'est au mois d'octobre, où d'abord, nous prions pour les missionnaires. Hein, il y en a dans tous les pays. Moi, ici à Chartres, on a des sœurs de Saint-Paul de Chartres qui arrivent par exemple de Madagascar ou du Vietnam et qui viennent en mission chez nous, comme on a eu en d'autres temps de nombreux Français, Françaises, partis faire l'école, les soins, la catéchèse dans des pays en développement. Donc on prie, on demande effectivement aux chrétiens s'ils veulent soutenir financièrement un peu ces missions, donc de faire des dons pour les missionnaires. Et puis ça nous rappelle aussi ce cœur de la vie de l'Église qui est d'annoncer l'Évangile.
Oui. Alors le pape a privilégié un thème cette année, c'est « Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu », cet extrait des Actes des apôtres.
C'est ça. En fait, c'est un récit qui vient d'un passage assez amusant dans les Actes où les apôtres sortent, annoncent la résurrection du Christ, annoncent qu'il fait des miracles, et en fait, les autorités religieuses et politiques veulent les faire taire. Parce que ça dérange, ça crée un trouble, et puis tout le monde n'est pas d'accord avec ce message. Et du coup, ils vont dire effectivement, il nous est impossible de nous taire. En fait, quand on porte en son cœur une passion, on peut dire, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui fait du cyclisme avec passion, ou qui fait une collection de papillons avec passion, il va vouloir montrer, expliquer à ses amis ce qui le passionne. Et donc, les apôtres sont passionnés par le Christ, comme nous le sommes dans l'Église, et donc on ne peut pas se taire, en fait. Aussi parce que le message que nous voudrions donner, c'est un message de paix, de compassion. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. La pandémie continue quand même, malgré tout, à toucher des gens ou à toucher des familles. Socialement, on voit les difficultés. On parle de cette hausse du gaz, par exemple, des prix de l'énergie qui affectent des gens, ou du carburant. Donc la vie, pour certains, dans les milieux ruraux particulièrement, est un peu tendue. Et donc c'est important d'aller annoncer une parole autre que les mauvaises nouvelles du JT. Et cette nouvelle, bien, c'est que le Christ est avec nous et qu'il nous donne sa vie.
Semaine missionnaire mondiale, ça donne aussi à voir, à contempler une Église aux mille visages. C'est vraiment la singularité de la catholicité. C'est finalement d'avoir un visage par pays, très différent, ce qu'on appelle l'acculturation.
Même chez nous en France, mais on ne peut plus dire maintenant qu'un catholique a tel look, tel visage. Hein, je crois que nos Églises sont souvent très brassées. Mais de fait, dans le monde entier, il y a plus de 2 milliards de chrétiens, hein, 2 milliards et demi peut-être, il y a 1 milliard 300 millions de catholiques. Ça fait des gens de toutes couleurs, toutes cultures. Et c'est ça le propre au fond de la mission, c'est d'amener une parole d'amour, une parole de conversion aussi, une parole de bienveillance, dans des cultures différentes qui vont les recevoir avec leur passé, leur histoire, leur façon de vivre, et qui vont inculturer l'Évangile dans sa vérité, dans sa totalité, mais avec ses couleurs différentes.
Ouais. Il est bon aussi de prier pour des églises qui souffrent parfois également, parce que être chrétien n'est pas sans risque.
On accompagne effectivement, je voyais même ce matin même une annonce dans la presse qui disait que les missionnaires en Inde allaient être surveillés par Internet, surveillés, fichés en quelque sorte. Ça pose des vraies questions de liberté. Il y a des pays où les chrétiens sont sous pression, d'autres où c'est interdit, comme la Corée du Nord par exemple. Donc c'est beaucoup de souffrance et c'est souvent eux qui portent du fruit parce qu'ils ont un courage qu'il faut reconnaître et admirer.
Oui. Pèlerinage à Cotignac du lundi 25 au vendredi 29 octobre. C'est le pèlerinage des catéchistes. Cotignac, c'est où ?
Alors on a voulu effectivement inviter toutes les catéchistes du diocèse, donc elles sont assez nombreuses. Hein. Il y a, je sais pas très bien, 150 ou 200 personnes qui sont impliquées dans nos paroisses pour la catéchèse. En tout cas, je crois que nous partirons à 25 ou 30. Je n'ai pas le dernier chiffre de l'équipe de la catéchèse, mais je suis ravi d'emmener ce quart. On va partir vers le sud, donc Coudignac, c'est en Provence. C'est un lieu d'apparition de Joseph. De Joseph. Voilà, donc un message vraiment de cet homme humble, discret, qui a été l'époux de la Vierge Marie, le père adoptif de Jésus. C'est un très beau lieu, ça sent vraiment le sud, les chênes verts, les grillons et les... Voilà, donc j'espère qu'il fera beau parce que ça sent magnifique, c'est un peu montagneux. Puis nous irons à la Sainte-Baume. La Sainte-Baume, c'est un lieu, une grotte. La Baume, ça veut dire grotte en provençal. Et c'est un lieu où Marie-Madeleine, donc Sainte Marie-Madeleine, l'amie de Jésus, celle qui était aux apparitions de Jésus, c'est un lieu où elle aurait fini sa vie. Vous savez qu'il y a eu plusieurs proches de Jésus qui sont venus en Provence. En fait, avec les persécutions, notamment celle qui coûtera la vie à Étienne par lapidation, eh bien, il y a un mouvement des chrétiens vers d'autres régions de l'Empire romain. Et en Provence, on a eu par exemple Marthe, qui est allée à Tarascon. On a eu les Saintes Marie, dans Marie-Salomé, qui sont allées en Camargue, où on les vénère beaucoup. On a eu Lazare, qui est allé à Marseille, premier évêque de Marseille. Et Marie-Madeleine, la tradition dit qu'elle a fini sa vie dans cette zone, dans ce secteur de Provence, donc la Sainte-Baume. Et on finira ce pèlerinage en remontant en car par Ars, donc Ars c'est un peu au-dessus de Lyon, on fera une nuit là-bas, auprès du saint curé d'Ars, saint Jean-Marie Vianney.
Dites-nous deux mots du curé d'Ars, parce que c'est quelqu'un...
Ah, c'est une merveilleuse figure.
Ah oui, figure d'humilité, mais alors qui accomplissait des miracles
c'est
aussi.
C'est un prêtre qui a eu du mal à être prêtre, parce que son latin était mauvais, et donc il était soutenu par un brave curé, et puis il est arrivé dans une petite paroisse qui faisait 300 habitants, donc vraiment, on pourrait comparer ça à un petit village de la Beauce, hein, ou du Perche, et il a été là... Un homme de la miséricorde. En fait, il s'estimait toujours très, très mauvais. Même deux fois, il veut s'enfuir pensant qu'il ne fait pas le bien. Et sa vie était de célébrer les sacrements, la messe, bien sûr, très pieusement. Et puis, à la fin de sa vie, il accueille, je crois, 80 000 personnes par an. Les gens faisaient la queue un ou deux jours pour le rencontrer, quelques minutes. Mais il avait un don, c'est qu'il voyait les âmes. Il lisait dans les âmes, il lisait la vie des gens dans les âmes. Donc, avant même que les gens se confessent, donnent vraiment ce qu'ils avaient à dire de leur péché, il le savait. Et en fait, il était vraiment plein de la miséricorde de Dieu. Les gens repartaient bouleversés. Et on venait de la France entière voir le saint curé d'Ars de son vivant, ce qui est assez étonnant. Et c'est devenu aussi le saint patron des curés. Donc, un lieu où on aime prier pour nos prêtres.
Je me souviens juste de cette phrase, je crois, je ne veux pas me tromper et tromper les auditeurs, mais quand il est arrivé à Ars, bon, il ne savait pas trop où c'était, il y a un enfant qui est là, il lui dit « Montre-moi le chemin d'Ars et moi je te montrerai le chemin du ciel ».
Exactement, c'était une belle
beau,
rencontre.
Ça.
Il y a une statue de cette rencontre quand on arrive à Ars.
Oui. Très bien, et ben, nous allons évoquer maintenant votre message fraternel de vendredi dernier. Il porte sur le secret de la confession, parce que ce secret de la confession a été... Et sur la sellette, hein, à suite au rapport sauvé, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Parce qu'évidemment, on comprend le souci de la justice concernant justement ces actes de pédophilie, mais le secret de la confession, lui, est bien réel. Difficile de marier les deux, finalement, les deux soucis. Si
oui, c'est apparemment difficile. C'est quoi le but de tout ça ? Le but, c'est que des gens qui seraient de potentiels prédateurs soient accueillis, arrêtés peut-être, en tout cas empêchés de nuire par la justice, qui prendrait des mesures soit d'emprisonnement, soit de soins surtout, pour des gens qui auront ces pulsions sexuelles vers les enfants. Alors, ça, c'est le but. L'idée de l'Église, ce n'est pas d'empêcher cette justice qu'on doit aux victimes et qu'on doit aux enfants. Mais ce qu'on constate d'abord, c'est que les gens ont confiance dans la confession. Ils ont confiance, ils vont voir des prêtres, ils déposent des choses qui sont glauques. Ça peut être un adultère, ça peut être parfois un crime, ou ça peut être des choses assez banales, mais qui pèsent dans leur vie et qui blessent la vie des autres. Donc ils ont confiance, ils viennent volontiers là. Ils savent que rien ne sera dit à l'extérieur. Même les enfants se confessent. Mais si l'enfant apprenait qu'on va dire ce qu'il a dit à ses parents ou qu'on va le dire à sa maîtresse, il va plus y aller. Il va pas vouloir y aller. Donc, le secret, c'est la garantie que la personne, quelle qu'elle soit, homme, femme, enfant, vieux, peut venir voir un prêtre et déballer sa vie et avouer peut-être des choses. Après ça, il y a une logique, il y a une pénitence qui est de dire à la personne, convertissez-vous et faites justice. Si vous avez fait le tort, par exemple, vous avez volé, il faut rendre ce que vous avez volé. Alors allez rendre ce qui a été volé pour que votre contrition, votre démarche soit sincère. Si vous avez fait quelque chose de très mal, il faut aller voir la justice. Il faut libérer votre cœur en faisant justice aussi à la victime qui a ça. Maintenant, dans les faits, il faut quand même être objectif. Moi, j'ai interrogé mon conseiller presbytéral, une dizaine de prêtres de tous âges, et je leur ai demandé, est-ce que vous avez mémoire, bon, on oublie des choses, mais d'un homme adulte qui a confessé un jour avoir abusé d'un enfant en bas âge? Et tout le monde a dit non.
Non, c'est pas évident.
Moi, je n'ai pas mémoire de ça. Oui, et j'ai demandé, est-ce que vous vous rappelez d'un enfant qui est venu vous dire qu'un parent, un adulte, abusait de lui? Et de fait, non. Autrement dit, je crois que malheureusement, les agresseurs sont souvent dans le déni. Et il y a tellement de victimes aujourd'hui par l'inceste, on estime à 400, 500 par jour par l'inceste en France, d'après les calculs de la commission indépendante contre l'inceste qu'a mis en place l'État, que ce n'est pas la question, le secret de la confession. Je crois que c'est au contraire le lieu d'une parole, le lieu d'un aveu, c'est un lieu possible pour dire des choses et progresser. Après, on essaiera bien sûr d'aider les gens, on essaiera d'encourager, si ça venait un jour que quelqu'un se confesse de ça, d'aller voir la justice. On ne va pas empêcher ça. Mais la solution au drame de l'inceste, au drame des abus sexuels, n'est pas dans le fait de supprimer le secret de confession par rapport à ça. Il est dans le fait de prendre des moyens hauts d'accompagnement des gens, de repérage chez les enfants des victimes potentielles d'adultes par leur comportement. Mais c'est très difficile parce qu'on n'a pas de critères pour juger d'un agresseur. Ça peut être des gens très très différents. Ça peut être des gens qui ont pignon sur rue, qui ont une vie normale apparemment et qui abusent d'un enfant, d'un proche, d'un bébé, je ne sais pas quoi. Enfin, c'est un monde assez glauque.
Oui, ça ne s'inscrit pas sur les toits, c'est extrêmement fermé, même dans les familles, souvent, d'ailleurs.
Et je pense qu'il faut, il faut réfléchir avec tous les acteurs, à la prévention, bien sûr, à l'accompagnement et aux soins à donner à des gens qui vont dire « Oui, j'ai une tension vers l'enfant, j'ai une attirance, aidez-moi. » Parce que beaucoup des abuseurs ont été abusés. Et ça crée un déséquilibre affectif, souvent une forme de régression, qui fait que l'acte qu'il pose vers un enfant se voudrait presque un acte d'amour, alors que ce n'en est pas un, c'est un acte violent, qui a des conséquences graves, et on l'a écouté chez les victimes. Mais je crois que la question du secret de la confession, c'est une fausse question, c'est pas la question, en fait. Voilà ce que dit l'Église. En tout cas, c'est ce que je ressens, moi, comme pasteur et évêque.
Monseigneur, merci, chers auditeurs, de votre fidélité. Merci à Simon, Régie Technique. Je rappelle que vous pouvez réécouter cette émission sur www.radiograndciel.fr. À la semaine prochaine.
Oh mon Dieu, tu es grand, tu remplis l'univers, que ta gloire brille sur la terre. Oh mon Dieu, tu es grand, écoute ma prière, que ta gloire brille sur la terre. Mon Seigneur, que mon chant s'élève vers toi.